RMC. On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les seuls pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie toujours de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo. Tiens, avant d'accueillir le drôle de dame, sachez que demain, il y aura une spéciale e-sport avec comme invité dans l'after Bruce Granek, plusieurs fois champion du monde de PES et de FIFA. Mercredi 20h45 également, en document dans Transversal sur Marco Verratti. RMC qui est allé sur ses traces, voilà, qui a plongé dans son enfance. Ouais. Un Manopello qui est allé à la rencontre de ses proches également. Voilà, très beau document d'Adriano Recchia, ce sera à 20h45 sur RMC Sport 1 en Transversal.
Exactement.
Nos drôles de dames sont avec nous.
Exactement.
Simone Rovera. Ciao, Simone.
Ciao, bonsoir. Regardez les documentaires sur Marco Verratti qui a été réalisé très bien par Adriano avec la contribution de quelqu'un qui a aidé à Manopello plusieurs jours.
C'est qui?
Je sais pas.
C'est toi?
Mais bien sûr que c'est moi. Mais bien sûr, tous les secrets sont bien racontés par Adriano.
Tu as mangé les célèbres petites brochettes.
Les arrosticini, bien sûr.
Ça, bravo.
Oui, dans le restaurant à côté de la maison de Marco.
Les brochettes de Manopello.
Son papa, son frère, c'est magnifique.
Tu peux pas connaître.
Ah non, je connais pas du tout.
Si on va pas
c'est
là.
Où d'ailleurs Manopello?
C'est dans les Alpes.
Manopello, c'est une province de Chieti. On parle toujours de Pescara, mais Manopello, c'est plus proche de Chieti, donc.
C'est plus dans les Alpes.
Voilà.
Pescara,
tu connais pas ce jeu?
Non, c'est Chieti. Il y en a deux autres qui sont très proches.
Très bien, j'ai trop mangé.
T'as mis la petite sauce piquante ou pas dessus?
Un petit peu, mais pas trop.
C'est pourquoi ça te fait.
Après, tu vas voir.
Ils sont collés. Branchez-vous sur RMC Sport pour regarder cette image touchante. Bonsoir David Dartelari. Tu parles dans un micro.
Là, le truc, c'est que ça fait naître une ambiguïté.
Il faut pas le toucher, ça fait du bruit.
Salut à tous.
C'est bizarre comme image là.
On est bien là. On nous a demandé de nous rapprocher, alors nous on respecte.
C'est presque.
C'est ambigu.
On va avoir chaud toute l'émission.
C'est ambigu.
Un peu ambigu. Fred Hermel est avec nous également, bien sûr. Bonsoir, mon Fredo.
Qui est dans son canapé, collé avec personne, malheureusement.
Oh,
le petit gosse.
Rien ne le prouve, ça, Fredo.
Non, mais je vais te donner une photo, là.
Non, la soledad, comme on dit en espagnol.
T'aurais toi aussi conclu à l'ambiguïté.
Elle est belle, cette photo. Tiens, je vais la prendre pour.
Ouais, tu peux la mettre, s'il te plaît. Tu l'envoies par WhatsApp que je vois.
Bah, trop tard, on me l'a enlevé de l'écran. Et c'est la star de cette fin de saison, la drôle de dame anglaise, Julien Laurence. Alors, la question, est-il accompagné ou pas?
Salut à tous. Je suis sur mon canapé et aussi tout seul. Tout le monde dort chez moi.
Ouais, il ne marche jamais seul.
Ouais, mais t'as une grande famille, toi.
Ah oui, je suis désolé. Oui, j'ai une grande famille, mais tout le monde dort.
Je crois que tu as autant de membres de ta famille que de représentants anglais en Coupes européennes.
J'ai autant de finalistes à la maison, effectivement, que des clubs anglais dans les vrais finales, quoi.
Toi inclus ou pas?
Non, trois enfants, une femme et.
Ah, ouais, c'est ça.
Mais quatre. Cinquième finaliste. Il aurait pu avoir trois femmes.
Ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait déjà beaucoup.
C'est pas impossible.
Mais en fait, tu ne peux pas avoir. Ah, si, tu peux avoir un cinquième représentant en Ligue des Champions la saison prochaine si Arsenal gagne la Ligue Europa.
Oui, exactement.
Exactement. Ça ferait le compte parfait.
C'est possible.
Ah, là, ça fait marrant aujourd'hui, tu vois. Moi, je me sens libre, léger, tu vois. Il y a tout le poids de l'actualité sur Julien. Ouais, moi, je vois, je suis bien, là. Tiens, c'est cool.
Bah, tu sais quoi, on va commencer par toi. Attends, on va commencer par le discours Barcelone, on va être là encore, machin, je suis heureux, etc. Et le jour où tu n'y es plus, ça fait plaisir. On va débuter par Fred Hermel, jingle, bien sûr.
Pépé, t'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Je faisais les ongles, y'avait des ongles à ta barbiche, t'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch.
Pour l'air relevé la nuit. Alors que c'est une chanson extraordinaire.
Oui, non, mais non, j'ai
Léo Ferré,
la chanson, mais
à Pépé, qui était sa
le défenseur du Real. Ouais.
Attention, parce qu'on va mal interpréter. Léo Ferré, le grand artiste, avait une guenon qui s'appelait Pépé. Mm-hmm. Il a écrit une chanson sublime sur elle après sa mort.
Ah, mais il a chanté pas comme ça. Hein,
c'est long une saison.
Hein. Il chante pas si mal, hein, Fred. Il se démerde un peu. Il est du cœur.
Mais là, c'était pendant
un
concert de match.
Dans sa voix. Il y a une vraie, timbre.
Je sais pas, il a le cœur quand il chante. On voit que c'est un truc qui lui plaît. Il doit, je pense qu'il a dû faire un ou deux karaoké.
C'est pas suffisant, d'ailleurs.
J'ai chanté toute ma vie.
Sincèrement.
Sincèrement, je vais
te trouver plein de joueurs qui ont du cœur, hein, sur le terrain. Hein. Non, tu vas me dire toi-même le premier, c'est pas suffisant, Pierre.
J'ai dit, c'est le premier élément, j'ai dit.
Alors, Pierre, attention, parce que j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une bonne voix, je chante juste. Ça, bon, je peux te dire.
Je te chanterai quelque chose un jour.
D'ailleurs, dans mon école, avec Madame Mailleux Madame Mailleux, qui était l'institutrice qui m'a appris à lire et à écrire au village, elle me faisait monter sur la table et je chantais Dalida quand j'étais petit.
Tu m'as fait peur. Putain.
Le jour et la nuit, j'attendrai toujours.
Après, il a repris ça plus grand.
Ouais.
Avec les accessoires dans les soirées, à Tchouéka.
Avec les accessoires.
Et il faisait monter la prof sur la table.
Exactement.
Alors, Fredo. Mon Fredo, grosse info, et on se tourne également vers Julien Laurence également. Alors hier, Eden Hazard a déclaré que sa décision a été prise, que les dirigeants étaient au courant concernant son avenir. Ça y est, Eden Hazard.
Il écoutait RMC depuis longtemps alors.
Eden Hazard arrive donc.
Bah oui, ça. Mais je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines déjà. C'est fait.
Ah bah le redis pas alors.
Non, mais simplement, le truc c'est que ce qui décale simplement l'annonce, c'est la qualification de Chelsea pour la finale de la Ligue Europa. Et je vais vite passer la balle à Julien parce que vous savez, il y a encore des joueurs qui ont le respect du maillot qu'ils portent et qu'ils ont porté. Il y a encore des joueurs qui ont la reconnaissance du ventre. Il y a encore des joueurs qui aiment.
Pourquoi tu dis ça en fait, je comprends pas.
Attends, laisse-moi terminer.
Oui.
Et il y a encore des joueurs qui veulent partir proprement d'un club. Et c'est le cas d'Eden Hazard. Et je sais que Julien le sait aussi. Il faut que l'annonce soit bien, qu'il puisse dire au revoir. Si ça peut se faire...
que tout le monde est au courant, ça a fuité de partout. Mais en fait, c'est sur la forme.
Mais je vais même te dire quelque chose. Non, mais je vais même te dire quelque chose. Tu sais que...
Il est professionnel, encore en haut, qu'il le joue à fond.
Je vais même te dire, pour aller au-delà de ton cynisme, que Eden Hazard n'est pas au Real Madrid.
Je suis cynique, c'est que toi t'es un naïf de première.
Que Eden Hazard n'est pas au Real Madrid depuis l'été dernier, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu aller au clash avec Chelsea.
Eh oui.
Sinon, il serait déjà avec le maillot du Real Madrid. Parce que le Real, la méthode du Real, vous savez, c'est de demander aux joueurs d'aller au clash pour faire baisser le prix. Chelsea demandait 220 millions d'euros que ne voulait pas payer le Real. Et Hazard a dit que lui, il était incapable d'aller à la guerre, aller au clash avec un club qui lui a tant donné. Et raison pour laquelle, c'est un départ totalement négocié.
Eh oui, à notre époque, on doit féliciter normales.
Bah oui.
Les comportements normaux.
Tout le monde n'est pas Neymar. Et moi j'admire, en tout cas je respecte
Neymar.
Parce qu'il est parti de l'Espagne.
Mais non.
Pierre, tu as une mauvaise réputation. C'est ridicule.
Alors Neymar ou un autre, ou qui tu veux. Mais un autre.
L'Espagne, c'est une raclure.
Ah mais attends, laisse-le.
Même pas Alors on prend un autre exemple. Je prends Neymar parce que c'est le joueur le plus cher de l'histoire. On prend un autre exemple de joueur qui est parti salement, qui on peut prendre Dembélé d'Allemagne.
Salement, ça nous va.
Il y en a plein.
Parce que là, forcément, on a les mal réglés.
Et donc, on prend Dembélé. Allez, on prend Dembélé. Donc, moi, simplement, et je sais que Julien va me donner raison.
Neymar est parti seulement du Barça.
On oublie Neymar. Je présente mes excuses.
Pourquoi c'est salement, je comprends pas.
Allez, je me suis trompé sur Neymar, c'est un mec formidable. Donc on va prendre Dembélé qui a forcé son départ. Et ben moi je reconnais que Eden Hazard a voulu partir proprement de son club et c'est la raison pour laquelle tout se fait sur du velours. Et je passe la balle tout de suite à Julien qui va me confirmer.
Ouais, il s'est endormi, Julien.
Non, c'est vrai. Non, pas du tout.
C'est pas vrai du tout.
Je crois qu'il est plus tout seul sur le canapé.
Si, Fred a raison. C'est dans le sens où il aurait pu annoncer il y a très longtemps publiquement aussi qu'il avait décidé de quitter le club. Il l'a pas fait. Qu'effectivement, il veut pas.
Fred est gentil
quand il dit.
Vous voulez pas qu'on parle vraiment des trucs, tout qu'on arrête ce genre de jeu de dupe bidon sur la mentalité.
Ok, bah tu fais le programme toi. Allez, vas-y. Alors maintenant, tu vas nous dire toi comment il faut faire. Tu vas nous dire toi ce qu'on doit dire, d'accord?
Mais parle des vrais sujets, parce que là,
le rédacteur en chef se comporte bien,
l'autre il se comporte pas bien. Quand on connaît l'univers du foot, qui est guidé uniquement par le blé,
tu peux quand même penser qu'il y en ait qui soient pas uniquement guidés par ça.
Évidemment.
Et Eden Hazard n'est pas uniquement
à mon tout petit niveau. Par l'argent, t'as des joueurs qui réagissent différemment d'autres. C'est une réalité.
À partir d'un certain montant, après, on réagit différemment.
Mais non, pas forcément. Eden Hazard ne vient pas au Real pour l'argent. Eden Hazard ne vient pas au Real pour l'argent. Oui, il vient au Real parce qu'il a envie de jouer dans ce club-là, parce qu'il a envie de découvrir la Liga et parce qu'il y a Zidane.
Il n'était pas malheureux à Chelsea non plus, quoi.
Ben, bien sûr que non. Il fait la France, il fait l'Angleterre, il fait l'Espagne. Il fait une belle progression de carrière, 28 ans. Et en plus, il va avoir les clés du camion de la création du jeu au Real sous Zidane. Ben voilà, c'est un projet de carrière qu'il faut respecter.
On peut penser, Daniel, qu'à un moment donné, un mec, effectivement, dans ce milieu où t'as raison, c'est très souvent comme ça, mais qui se disent, moi, j'ai pas envie de partir seulement parce que ça va me foutre une sale image et j'en ai pas envie, quoi.
Et c'est pas moi. Raison pour laquelle, comme le présentateur et directeur de ce programme, Nicolas Villas, me lance sur Hazard, je dis simplement pourquoi l'arrivée d'Hazard au Real n'a pas été officialisée depuis l'accord qui a eu lieu il y a plusieurs semaines.
Mais ça fait deux mois que tu nous fais le SAV d'Hazard, on dirait un vendeur de chez Darty.
Non, là il est fait le
SAV. Non, je donne des informations, petit gars. Je donne des informations.
C'est en vente qu'il a fait.
Bah oui, c'est ça, c'est pas vraiment.
La vente, elle est déjà faite puisqu'il te le dit depuis deux mois. Donc en fait, Hazard, il a même pas le maillot du Real qu'on est déjà en extase à genoux devant ses performances qui seront forcément extraordinaires.
Oh, mais qu'est-ce que c'est fatigant. Allez, Nico, on parle de quoi, parce que là c'est pas la peine.
Bah, je crois que tu voulais parler du Real le Real qui est présenté comme étant le pire Real du 21e siècle par la presse espagnole.
Voilà. On avance.
Ouais, bah oui, bah c'est horrible. On se défait en Ligue 1. Mais non, mais c'est pourri. Mais ça fait des semaines que je vous dis que c'est pourri, que les matchs sont pourris, que c'est horrible et que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Zidane, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire un nettoyage dans une équipe qui joue mal, qui joue salement avec des joueurs pas motivés. Et puis surtout, alors puisque vous voulez du sang, hein, de la transpiration. Et là encore, je vais parler avec Julien Laurence, l'homme à la mode en ce moment.
L'homme qui
Gareth Bale. Zidane est en train de lui mettre un coup de pied au cul. Mais en fait, le gros problème de Gareth Bale, c'est son salaire qui est 15 millions net après impôts. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, les clubs anglais, ben ils se bousculent pas pour.
Et il a quoi comme contrat encore?
On a coupé la censure. Oh la censure.
Ouais, ça c'est pas beau, monsieur.
Bon, personne veut de Bale alors, Julien.
Un scandale, ça.
Bah, surtout à son âge, quoi. Il va avoir 30 ans au mois de juillet. 30 ans à ce prix-là, avec ce salaire-là, pour un joueur qui, un, est souvent blessé, deux, clairement, ces deux dernières saisons, ne montrent pas trop l'exemple en termes de comportement et d'attitude sur le terrain comme en dehors. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Comme à vendre, quoi, ou en tout cas à acheter, mais pour le Real, pour chercher un club à qui le vendre, c'est vrai que c'est compliqué.
Et il a
mais...
quoi comme contrat encore au Real, on sait?
Jusqu'en, ben il a dû prolonger il y a 18 mois, non, donc il est encore 2022 peut-être.
Ah ouais, oh là là, oui, c'est
ouais, donc c'est énorme, hein. Ça va coûter très cher, ouais. Ou alors l'envoyer en prêt, mais je suis pas persuadé que ça convienne ni à lui ni au Real Madrid.
Fred is back.
Non, simplement, la question de Bale, c'est que son salaire est énorme et que Bale ne veut absolument pas baisser son salaire et que son agent est en train de dire que bah il pourrait rester au Real. Sauf que Zidane ne veut absolument pas de Bale dans son vestiaire et qu'il est en train non seulement de faire des déclarations qui sont très dures contre le joueur, mais ça fait deux matchs qu'il est écarté du groupe. C'est-à-dire, il n'a pas joué, il était même pas dans le groupe, pas convoqué sur la liste la semaine dernière contre Villarreal à domicile. Il n'était pas là hier à Saint-Sébastien. Et quand on pose la question à Zidane sur le fait, bah pourquoi Bale est pas là, il dit mais c'est clair ce que j'ai fait, non? Hein, c'est clair. En gros, je ne veux plus de Bale. Et donc il faut absolument que Bale accepte de partir, même s'il faut qu'il baisse son salaire. Alors je ne sais pas si Julien a parlé de la possibilité Manchester United entre-temps, mais c'est compliqué à cause de ce salaire.
Un petit mot également, Fred, sur Luis Suarez qui s'est fait opérer. Et alors apparemment, il y a certains fans du Barça qui sont pas contents du tout là.
Ben, c'est normal. C'est-à-dire que Luis Suarez mardi soir est éliminé de la Ligue des Champions et il décide de faire une petite arthroscopie du genou. Alors en gros, Pierre, je sais pas si tu as eu l'occasion d'en faire une déjà, mais enfin c'est un petit nettoyage du genou.
Hein,
petit
enfin, il y a plusieurs sortes d'arthroscopie.
Voilà. Là, il avait des petites traces des petits morceaux de ménisque et tout ça qu'il fallait nettoyer. Et qu'est-ce qu'a fait Luis Suarez? Eh ben, il s'est fait opérer à 1h du matin samedi dans la nuit de jeudi à vendredi.
En rentrant de boîte.
Voilà. En gros, tu vois.
Non, là, tu rentres pas de boîte.
Le problème, c'est que pourquoi il fait ça? Bah, il veut avoir un genou tout propre pour jouer la Copa América avec l'Uruguay. Sauf que le Barça a encore un titre à jouer, hein, à la fin du mois,
Mais tu veux dire quoi? Qu'il l'a fait sans l'accord du club?
Non, il l'a fait. Alors, en tout cas, il l'a fait. A priori avec l'accord du club, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que l'attaquant, le numéro 9 titulaire du Barça, se fait opérer pour être en forme, pour être remis pour la Copa América, en sacrifiant son club en finale de la Coupe du Roi, alors qu'il reste un titre.
Oh, mais il a peut-être des douleurs, Fredo, non? Mais non, c'est chiant.
Non, il l'a fait. S'il était qualifié pour la finale, eh ben, il ne se serait pas fait opérer pour la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est un truc de confort qui s'est fait, mais c'est un truc de fou, quoi.
Pas forcément de confort, Fred. Je pense que tu fais toi aussi la différence entre une finale de Coupe du Roi et une finale de Ligue des Champions.
Non, mais moi, je vois la différence.
Et je pense qu'on estime au Barça qu'on peut gagner la finale de Coupe du Roi contre Valence, sans lui.
Ouais, mais sauf que les supporters sont pas très contents. On se dit,
mais à un moment donné,
ça sacrifie le Barça.
Ça se trouve, ça fait deux mois ou plus qui serre les dents, qui fait des petites infiltres, etc., pour pouvoir jouer avec ça. Et à un moment donné, tu dis bon bah voilà, on stoppe ça, on force plus, et effectivement, on fait tout opérer maintenant.
Dans une semaine, t'as la finale de la Coupe du Roi quand même.
Ouais, après les délais sont peut-être.
Également, Fred, juste, j'ai vu que la Cadena Ser annonçait Griezmann au Barça aussi.
Alors oui, c'est un peu plus compliqué que ça. La Galicia n'a pas annoncé.
Ils disent qu'en gros, il est dégoûté du départ de Godin et Lucas, du côté de
l'Atlético, on commence à se dire qu'il y a un risque qu'il parte, etc. Alors oui, il y a une possibilité qu'il parte au Barça, mais quand il s'agit de Griezmann, alors moi, tant que c'est pas signé quelque part, je ne m'avance pas parce que il change d'avis comme de chemise.
Ouais, c'est facile de s'avancer qu'avec les bons mecs comme Hazard, Fred.
Ben oui, ben non, mais il y a des mecs qui sont plus limpides. Non mais c'est vrai, il y a des mecs qui ouais et c'est des Griezmann l'an dernier a failli partir, vous vous souvenez de cette vidéo, la décision, et puis l'Atlético a allongé Piqué a allongé 20 millions d'euros net. Après pour le il est vrai que le désastre du Barça en Ligue des Champions, parce que c'est considéré comme un désastre et comme la pire chose qui a pu arriver au Barça ces dernières années. C'est pas moi qui le dis hein, c'est la une de la presse catalane. Fait que il faut recruter et qu'il faut beaucoup au niveau des transferts pour essayer de créer un contre-feu, et que l'arrivée de Griezmann pourrait être intéressante à ce niveau-là. Mais on connaît toujours entre une partie de sa famille qui souhaite que Griezmann aille au Barça, une autre partie, en l'occurrence sa femme, qui préfère rester à Madrid. Donc voilà, l'été va être compliqué aussi par rapport à l'avenir de Griezmann, qui est vrai, et ça c'est un élément important. Il a perdu son frère, quoi. Enfin, son frère, son ami, qui part chez Simone à l'Inter de Milan. C'est Godin qui a annoncé officiellement son départ, qui est parti officiellement de l'Atlético. On n'oublie pas que Godin est le meilleur ami de Griezmann dans le vestiaire, qui est le parrain de sa fille Mia, et que pour lui, c'est un gros coup au moral d'avoir perdu quelqu'un qui est si proche de lui. Donc voilà, l'avenir de Griezmann, on aura beaucoup l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines.
Là encore, permettez-moi, tu vas encore dire cynique et tout, machin, mais que Griezmann, dans les semaines à venir, au niveau de la com, mette un peu en avant, après avoir dit l'Atlético, machin, l'année dernière, j'y reste, c'est génial, tout ça, et prenne un peu, on va dire, entre guillemets, l'excuse du départ de Godin.
Non, c'est pas vrai.
Au Barça.
J'espère qu'on va pas tomber dans cette crédulité-là, parce qu'au
niveau de la naïveté, on va tout exploser, là.
Qui a dit que Griezmann était ça?
Comme on a beaucoup parlé.
On appelle ça les procès d'intention.
Non, mais vous avez beaucoup parlé de Godin, et dit, il l'a mal pris, là, ceci, là, cela,
pas
mal pris,
mais peut-être qu'il est touché par ça, c'est tout.
Bien sûr.
Mais très bien, mais je pense que c'est sa décision d'aller au Barça, elle est totalement indépendante de ça, quoi. Vraiment.
Mais ça n'aide pas à rester que Godin soit parti. Parce qu'il y a un an, Godin a beaucoup fait pour que Griezmann reste à l'Atlético.
Oui, probablement qu'à ce moment-là, ils se sont peut-être dit, on fait un an de plus, Ligue des Champions chez nous, machin, c'est le trip qu'ils avaient l'année dernière.
N'accuse pas Griezmann d'une communication qu'il n'a pas faite. Dieu sait si j'ai souvent critiqué la communication de Griezmann, qui est souvent catastrophique, mais là, à aucun moment Griezmann...
Non, c'était pas la sienne, c'était plutôt...
Non, mais personne n'a rien dit. Moi, je dis simplement que je sais Antoine Griezmann très affecté par le départ de Godin, et que ça ne l'aide pas à rester à Madrid, puisque son pote est parti.
Dans quelques instants, on filera en Angleterre avec Julien Laurence, car là, ça y est, on sait qui est champion. C'est Manchester City, Julien Laurence.
Le pays de Benjamin. Il paraît qu'ils ont des problèmes, City, là.
Il va nous en parler, Julien Laurence. Il va nous en parler, Julien Laurence, qui pourrait être exclu par l'UEFA la saison prochaine.
Ouais, Julien Laurence?
Non, pas Julien Laurence. Bah oui, Manchester City. J'ai dit Julien Laurence.
Il a tellement bouffé dans les
stades. Vaut mieux
qu'il le vire.
Allez, à tout de suite.
RMC. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot et de nos drôles de dames. On était en Espagne avec Fred Hermel. Il y a quelques instants, on va filer en Angleterre avec Julien Laurent. Hier, il avait la dernière journée de Première Ligue. Manchester City est champion d'Angleterre. Sixième titre pour les Sky Blues. 98 points pour les Sky Blues. 97 pour Liverpool. Son dauphin, la vie tranchée de Julien Laurent, porte justement sur ce Manchester City.
Si pour ma première saison dans l'After et à RMC, j'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions, j'invite tout le monde au resto. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Bah moi je serai.
Qu'est-ce qu'on va bouffer?
Je cherche toujours un restaurant qui peut accommoder 500 000 personnes. J'attends quelques réponses.
On n'est pas difficile.
Non mais il y a bien le bois de Vincennes, mais je sais pas au niveau des tables.
Sinon, on vient dans le nouveau salon du stade de Tottenham. D'ailleurs la place là-dedans.
C'est une bonne idée.
Sinon t'as Versailles, mais il y en a qui ont essayé, ça s'est pas bien passé.
Ouais, aussi.
Donc je continue
à chercher. Il prospecte. Voilà. Alors ton avis tranché, Julien. Manchester City, on vient de le dire, champion d'Angleterre, une saison complètement folle. Ça s'est fait lors de la dernière journée. 98 points pour City, 97 pour Liverpool. Et alors toi, tu dis, c'est la meilleure équipe de l'histoire de la Première Ligue, ce Manchester City-là.
Effectivement, c'est le grand débat. Les Anglais adorent faire ça, hein. Comparer, même si parfois c'est difficile de comparer différentes époques, différentes équipes, etc. Mais effectivement, c'est le grand débat depuis hier, donc le titre de champion de cette équipe de Manchester City. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les Invincibles d'Arsenal, par exemple, en 2003-2004? Est-ce qu'ils sont meilleurs que l'équipe de Manchester United qui avait fait ce fameux triplé Ligue des Champions, Coupe d'Angleterre et Championnat en 1999? Est-ce que, si on remonte plus loin, est-ce que c'est meilleur même que les grandes équipes de
les
Liverpool.
Éléments du débat. Quand ils font alors, ça, tu dis les Anglais aiment bien faire ça et tout. Quand ils en parlent, ils disent quoi, par exemple? C'est quoi les arguments?
Donc, par exemple, que les Invincibles, donc cette saison incroyable ou sans défaite de Thierry Henry, d'Arsène Wenger, etc., ils avaient eu 90 points. Il a fini la saison avec 90 points. Ça fait donc deux saisons d'affilée que cette équipe de City sous Pep Guardiola bat largement le score, par exemple le meilleur score, le meilleur résultat de cette équipe des Invincibles. C'est aussi le fait que cette équipe de City et Pep Guardiola continue à battre des records saison après saison. La saison dernière, bien sûr, première équipe de l'histoire à atteindre les 100 points. Cette saison encore, c'est 14 victoires de suite pour aller chercher cette couronne et être la première équipe depuis 10 ans à conserver son sacre de champion d'Angleterre, donc depuis Manchester United et Sir Alex Ferguson en 2008-2009. Voilà, toutes ces choses ici on en fait la meilleure équipe de l'histoire de la Premier League. Donc si on se base simplement sur ces années-là, depuis la création de la Première Ligue en 1992-93, c'est vraiment le sentiment ici que cette équipe-là est vraiment au-dessus en termes collectifs, en termes individuels, en termes d'entraîneurs, en termes de staff, en termes de à quel point Pep Guardiola a amené cette équipe haut, en termes d'exigence, de travail, de discipline tactique notamment, d'innovation aussi dans la façon de jouer, dans les combinaisons, et puis des joueurs quand même assez incroyables. Et encore une fois, c'est cette capacité de Guardiola à faire progresser ses joueurs, ou en tout cas certains joueurs. Mmh.
Pierre, toi, t'as commenté, t'as suivi la Premier League encore cette saison.
C'est dingue, hein. Deux équipes qui ont autant de points. City qui est encore champion, qui fait deux fois de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps.
Mais depuis jamais.
Deux fois de suite?
Non, je crois que tu parlais depuis du nombre de points, moi.
Une petite réflexion très rapide.
Deux années de suite, je voulais dire.
Une petite réflexion très rapide. En Espagne, on a eu exactement ce cas-là du temps de Guardiola et de Mourinho, puisqu'il y a eu des années à 96-97 points. Avec 20 points d'avance ou 25 points d'avance sur les autres, et en Espagne on considérait ça, et j'ai l'impression qu'en Europe aussi on disait que la Liga était pas intéressante, qu'elle était bicéphale et que c'était trop de points et qu'il y avait pas de compétitivité dans le championnat. Donc c'est très intéressant de voir comment on regarde ça en Angleterre, alors qu'en Espagne c'était catastrophique quand il y avait deux équipes avec
mais en Angleterre le truc c'est que tous les week-ends t'as des matchs. Alors les deux équipes ont pris beaucoup d'avance sur les autres, mais derrière la bataille à Ferrage t'avais des grosses équipes, tout ça, donc
surtout il y a un autre élément. On a commencé cette plage par ça. Mais c'est le fait qu'il y a 4 clubs anglais en finale de Coupe d'Europe aussi.
En plus, voilà.
À l'époque en Espagne, les Espagnols gagnaient la Ligue des Champions, la Ligue Europa.
Oui, mais on le disait, Fredo.
Non, mais c'est intéressant parce que même en Espagne, on considérait que deux équipes qui se rapprochaient des 100 points, c'était un gros problème de compétitivité pour le championnat espagnol. Même en Espagne, on le disait. Donc je trouve ça intéressant qu'on mette ça en valeur en Angleterre, alors qu'en Espagne, on critiquait.
Pierre.
Ouais, non, je vois pas le, moi je vois pas le problème, j'aimerais bien dans un championnat où deux équipes atteignent 100 points, quoi. Voilà. Non, je vois pas
déjà, le problème. Il y a deux équipes qui puissent gagner le championnat, si tu veux dire.
Je vois pas le souci d'année
où Monaco et Paris,
Ouais, je tire la bourre, par exemple, on se régale.
Ouais, un nombre de points très important,
et bah, on se régale.
C'était une chouette année, quand même.
Bien sûr. Ouais, non, moi je, en plus, souvent, quand t'as deux équipes comme ça qui sont au-dessus du lot et qui se tirent la bourre, très souvent, t'en as trois, quatre autres derrière qui font un autre championnat pour les places européennes, donc c'est passionnant. Aussi. C'est saison, ce qui s'est passé avec en Angleterre
cette saison dernière. Tu avais Juventus 95, Naples 91, ouais. Record historique pour du Naples pour un deuxième.
Et quand même, et il y avait régalé.
On s'est régalé, mais c'est vrai qu'on disait il y a les deux et les restes c'est un peu nul.
Ouais.
Par contre, ça, c'est un point de vue différent. Et tu avais la Roma demi-finale de Ligue des Champions quand même. Hein.
Alors ouais, après, tu peux pas avoir 10 équipes.
Bien sûr, joyeux en revanche, Julien. Alors il y a cette information qui est tombée ce soir là. C'est le New York Times, je crois, qui balance ça.
Ouais.
City pourrait être exclu par l'UEFA la saison prochaine.
Exactement, ouais, bon, avec enfin, le service financier. Bah, voilà. Tout à fait. Donc on savait qu'il y avait une enquête. Alors, on savait qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte par l'UEFA et par son à propos du fair play financier, pardon. On savait pas quand le résultat de cette enquête allait être annoncé. Selon le New York Times, ça pourrait donc être cette semaine et la sanction pourrait donc être la plus forte possible, la plus lourde possible, qui pourrait donc être l'exclusion de City en Ligue des Champions, peut-être pour la saison prochaine, plus probablement pour celle d'après. Mais c'est vrai, ce serait un coup énorme pour ce club, forcément. Alors, il y aura toujours un moyen de faire appel auprès du TAS, notamment, qui pourrait donc suspendre un petit peu là. Donc voilà, je pense qu'on n'en a pas terminé avec cette histoire, mais c'est vrai que c'était un des risques. Et Guardiola en avait parlé récemment en disant qu'il avait quand même un petit peu peur de ce qui allait se passer, même si lui était persuadé que le club n'avait rien fait de mal, et etc., qu'il enfreint aucune règle. Tu savais quand même qu'ils étaient vraiment limite. Ils ont déjà pris une amende un petit peu comme le PSG de 60 millions d'euros, dont 20 millions fermes il y a 2 ans, je crois. Et donc, ben là, cette fois-ci, ils ont été un petit peu rattrapés par la patrouille.
Comme on l'a toujours dit à chaque fois qu'on a parlé du fair play financier, qu'on a fait ces débats, le but de l'UEFA, ça n'a jamais été d'exclure les équipes. C'est avant tout la négociation. Peu importe que le New York Times dise qu'ils ont enfreint tout, c'est tout le dossier est monté, enquête faite et tout. Mais qu'à l'arrivée, ça débouche sur une exclusion, c'est pas du tout indiqué dans. Enfin, certes, ça existe en barème de sanctions, mais normalement, ils font tout pour que ça n'arrive pas, parce que c'est pas le but.
C'était l'ultime recours.
Ils ont tout fait pour les exclure. Et Milan doit aller faire appel au TAS. L'excuse du changement des propriétaires. Donc, ce que tu dis, c'est vrai.
Non, mais même...
Après, qu'en pratique, ils font vraiment ça.
Ils le font avec des clubs turcs et albanais, très souvent.
Oui, mais parce que ces clubs-là n'ont pas le moyen d'aller plus loin.
Non, parce qu'ils pèsent pas comme les autres, surtout.
Bah oui, c'est ce que je dis. Ces clubs-là n'ont pas les moyens d'aller plus loin.
Vous m'avez interrompu avant que je finisse, parce que j'allais compléter.
Chose que tu ne fais jamais.
Ok. Non, mais parce qu'après, on.
Tu vois comment ça fait, Daniel? Des fois, nous, on fait que le quart.
Oui, mais ton idée est déjà passée. Moi, il faut plus de temps. Sauf effectivement à être allé vraiment loin et que ça conduise dans les au cas dont vous venez de parler. Et il y a aussi le poids du club qui compte dans une négociation comme dans toute négociation. Donc si ça arrive pour City, c'est que vraiment ils sont allés au bout, mais c'est pas que le bouchon il est allé loin là.
Moi j'y crois pas une seconde.
Moi non plus.
Ils sont inquiets les Anglais ou pas plus vraiment. Que ça.
C'est tombé ce soir, donc le journaliste qui a écrit cet article est en général très bien informé, a des très bons contacts un peu partout, des très bonnes sources. Donc les Anglais se disent, si c'est lui qui l'a écrit dans le New York Times en plus, qui en général vérifie plusieurs fois ses sources et tout ça, plutôt sérieux, c'est que ça doit être vrai. Après, je te dis, on savait que ça allait tomber à un moment, on savait pas exactement quand, on savait que il y avait une possibilité que ce soit aussi lourd que ça. Maintenant, moi je suis comme Daniel et Pierre, j'attends aussi de voir, parce que se priver de Pep Guardiola, de cette équipe, même si effectivement c'est vrai qu'ils ont énormément dépensé, très peu vendu, contrairement par exemple au PSG qui semble quand même avoir fait des efforts notamment en termes des ventes, etc., pour pouvoir équilibrer un petit peu les comptes. Côté City, on a quand même énormément dépensé ces 18 derniers mois surtout. Donc voilà, j'attends de voir, mais c'est vrai qu'il y avait cette épée de Damoclès, et je te dis, Guardiola en avait parlé, on savait que ça allait tomber, mais hier à Brighton, par exemple, ils étaient très très loin d'imaginer, j'étais au match, j'ai vu tout l'état-major du club était là, enfin voilà, c'est, ça a dû tomber aujourd'hui, ça a dû leur faire un choc quand même.
Parce que tu parles de Brighton, juste pour finir, petite info également, Chris Hughton s'est fait virer, le manager. Alors ce qui est quand même hallucinant, il était là depuis 4 ans et demi, le mec, il les maintient. Hier, il perd face à City, bon, bah d'accord, et finalement, il se fait virer, quoi. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal
ils
de
ont gagné trop.
Vas-y, vas-y.
Ils ont gagné que 3 matchs sur leurs 26 derniers matchs de première ligue, quand même. Hein.
Ouais, d'accord.
Bon, il va retrouver quelque chose.
C'est compliqué. Et hier, c'est vraiment horrible. Tient, le football qu'ils jouent, c'est vraiment horrible.
Ouais.
Ils ont deux des meilleurs défenseurs centraux de la ligue avec Dunk et Duffy. Ils ont Glenn Murray à 35 ans qui a fait la saison de sa vie. Mais sinon, c'est quand même, même s'ils ont des bons joueurs, c'est que c'était quand même très, le football pratiqué, c'était quand même très très compliqué cette saison.
Dans quelques instants, la vie tranchée de David Lortolari, c'est pas fini en Allemagne encore.
Eh non!
Eh ouais, la lutte continue.
C'est surprise, suspense! Peut-être.
Le Comment Bayern.
Dit suspense en allemand.
La suspense.
Oui.
Ouais.
Ah, mais non, mais non, mais non.
Ah bon?
Non, non, bien sûr que non.
Bah, tu sais pas.
Je vous le révèle après la pub.
Mais c'est pas le dire.
Il parle pas allemand, Lorto.
Il parle pas allemand.
Non, il le parle. Oh, il est vénère, là. Là, tu l'as vexé.
Oui, c'est exactement.
Oh, il est vénère. Oh, la gueule.
Après, il va le chercher.
On revient dans quelques instants.
Google Trad.
Oh là là.
Google Trad.
C'est Togone pendant la pub.
Comment on dit Google Trad?
Vas-y, on.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo et de nos drôles de dames. David Lortolari est avec nous. Nous allons entrer en Allemagne, mon cher David. Alors, sais-tu comment on dit suspense en allemand?
Das Suspense?
Non, c'est des conneries. Tu le sais très bien.
Oui, c'est Spannung.
Ça n'a rien à voir, du coup. Ça veut pas vraiment dire suspense.
Ça veut dire tension, mais c'est une tension parce que on sait pas ce qui va arriver. Donc c'est Spannung, le mot qui est employé.
Ouais, mais là, contrairement à moyen quand même.
Spannend, ça veut dire tendu et Spannung,
ouais,
c'est la tension.
Un peu quand même.
Moyen.
Ah, Spannung un peu.
Qu'est-ce qui peut se passer là, honnêtement? Bayern joue qui?
C'était pas mon avis tranché du soir.
Spannung.
On nous met, ah oui,
ah,
alors,
attends, parce que
pour les auditeurs qui...
Arthur Robert, voilà, sur RMC Sport News, il nous l'a mis derrière en fond, mais ça n'a rien à voir avec Spannung, là,
c'est pas Spannung, là.
Non, mais c'est pas du tout ça. C'est alors, tu vois,
même toi, t'avais commenté écrit suspense, toi, t'écris suspense, espèce de toi,
surtout pas
suspense sans eux, mais t'es sérieux, Arthur?
Oh là là, Arthur Robert.
Hervorragend, ça veut dire magnifique, extraordinaire, donc ça n'a rien à voir avec...
Rien à voir.
Suspense.
Mais ça veut pas dire suspense non plus, alors. Jingle Lortolari, bien sûr.
Comment sont gérées les actualités sportives pour la natation? On a bien repéré que il y a eu une vague, si je puis dire.
Ah, il marche toujours aussi.
Ah,
bien, celui-là.
Ah, il est merveilleux.
C'est mieux. Ah, il est merveilleux, celui-là.
On n'a pas fait mieux dans l'histoire de l'after. Hein.
Ce week-end, il y avait l'avant-dernière journée de Bundesliga. 0-0 entre le RB Leipzig et le Bayern. Dortmund a battu Düsseldorf 3-2. Le Bayern qui a 2 points d'avance avant la dernière journée. Dernière journée hyper sexy parce qu'il y a de l'enjeu. Sur les deux affiches qui concernent le Bayern et Dortmund. Bayern-Eintracht, l'Eintracht qui joue une place pour la Ligue des Champions. Voilà. Et il y a Gladbach-Dortmund, pareil.
Le Bayern doit perdre à la maison contre
un nul du Bayern et le Borussia qui gagne par plus de 20
buts. Par plus de 17 buts d'écart, oui, c'est
ça peut arriver. Avec Borussia, ça peut arriver. Il faut
qu'il perde contre l'Eintracht pendant que Dortmund gagne tout.
Il prend 10 chez
Gladbach qui lui aussi peut se qualifier parce qu'ils sont quatrième actuellement.
Excuse-moi, mais pour Spannung, pour moi, il n'y a pas de Spannung.
Sauf que, Daniel, et ça va faire le lien avec mon avis tranché du soir que Nico, tu vas nous résumer, non, c'est moi qui fais tout en fait.
Toi tu considères que le Bayern se comporte mal avec Niko Kovac.
Exactement, le Bayern se comporte mal avec Niko Kovac et il faut peut-être donner quelques éléments de contexte pour nos auditeurs parce que Niko Kovac a un avenir tout à fait incertain au Bayern actuellement et c'est un peu curieux quand même parce que cet entraîneur a été chaleureusement choisi, ce jeune entraîneur de 47 ans a été chaleureusement choisi par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge qui est l'autre président du club n'a pas dit non parce que s'il avait dit non ça aurait pas été Kovac. Autrement dit, les deux présidents du Bayern se sont mis d'accord pour que Kovac vienne. Donc un jeune entraîneur de 47 ans qui arrive l'été dernier. Un jeune directeur sportif, par-dessus cela, Hasan Salihamidžić, 42 ans, donc là aussi, même génération, mais jeunesse aussi, choisi, adoubé par les deux grands patrons du Bayern. Autrement dit, si on décidait aujourd'hui de dire à Kovac, ciao, bye bye, après une saison, on te remplace.
Ils ont qui comme piste?
On se désavouerait soi-même.
Absolument là.
Attends, Daniel, il faut que je développe un peu cette affaire.
Tu vois, t'es là, t'es à la moitié de la ville.
Spannung, Daniel.
Spannung.
Le problème, c'est que, alors qu'il reste deux matchs très importants pour décider si le Bayern fait une belle saison ou une saison franchement moyenne,
finale de coupe.
S'ils sont pas champions, c'est pourri même.
Championnat dans samedi prochain, finale de coupe la semaine suivante. Donc au moment où il y a deux matchs très importants qui se précisent, les deux matchs les plus importants hors Coupe d'Europe pour le Bayern doublé, cette quoi, saison, ouais. Et ben les présidents et le directeur sportif font des sorties très très inquiétantes pour Kovac. Et ça affaiblit non seulement l'entraîneur dans ce moment décisif, mais aussi son équipe qui peut se dire tiens l'entraîneur est pas soutenu, et ben nous on va aussi jouer pour le fragiliser. Kovac actuellement reçoit d'un directeur sportif comme Salihamidžić la phrase suivante: je suis à fond derrière lui, mais si nous faisions une saison sans titre, ce serait une saison de merde.
Bah, est-ce qu'il est vrai, non?
Ah. Oui, mais c'est peut-être pas le moment de le dire quand même. Okay. Le président, le président Ulionets qui passe pour un ami de Niko Kovac, ne dit plus aujourd'hui que Kovac va rester.
Lui aussi, il y a un mais dans Kovac. La phrase.
Exactement, il y a plus de phrase du tout.
Son ami, mais
c'est un handicap en plus pour Kovac.
Travailler avec les amis, c'est jamais bon.
Et Karl-Heinz Rummenigge dit lui, et ça fait plusieurs fois qu'il le martèle, il n'y a aucune job garantie pour un entraîneur du Bayern, quel qu'il soit. Donc ça fait un Kovac qui n'a pas eu la main sur le recrutement cet été, qui est un jeune entraîneur, qui a un directeur sportif au-dessus de lui, qui a mis plusieurs mois à trouver ses marques, à qui on reproche une mauvaise qualité de jeu offensif. Contre Liverpool, c'est vrai, il n'a pas forcément fait les bons choix. Pour lequel, et c'est là où c'est l'essentiel peut-être, les présidents ont un doute, c'est ça qui risque d'être décisif cet été, ont un doute sur le fait que Kovac puisse mener le Bayern la saison prochaine ou dans les 2-3 prochaines années à nouveau au sommet de l'Europe. C'est-à-dire qu'on va recruter à coup de dizaines de millions d'euros au Bayern, on a déjà commencé, et on voudrait un entraîneur qui ait la carrure et qui ait aussi le salaire.
Parce qu'il y en a des pistes là.
Moi j'ai la piste
pour supporter une équipe comme ça.
Hier, un télévision italien qui est très bien renseigné sur la Juve a dit qu'il y a une proposition pour Massimiliano Allegri de 12 millions par an sur 3 ans. Pour 3 ans, donc énormément.
S'ils veulent du jeu, on s'emmerder là.
Le problème en fait qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de respect pour Kovac aujourd'hui. Si c'était Guardiola qui était en place, si c'était Magath qui était en place, si c'était Heynckes qui était en place, si c'était tous les grands entraîneurs récents du Bayern qui étaient en place, jamais ces entraîneurs-là ne subiraient le traitement que Kovac. Oui, mais les entraîneurs n'ont jamais marmonné pour mettre en cause leur entraîneur en plein moment.
Demande à Ancelotti le traitement qu'il a reçu au Bayern. Je peux te dire que
oui, peut-être. Peut-être, mais dans la presse,
Kovac, je regretterais son élégance.
Ancelotti,
je crois que c'est un des plus élégants d'Europe.
C'est comme le cœur, ça ne suffit pas, Daniel.
Et José, le nom pour le Bayern.
Non, j'ai pas entendu Mourinho. Le nom.
Vous imaginez Guardiola s'écraser vis-à-vis de ce genre de traitement
Non, bien sûr.
C'est un peu compliqué quand même. En fait, là, les dirigeants du Bayern sont en train de faire une démonstration de force qui est excessive, qui dépasse la nécessité vis-à-vis du respect d'un entraîneur.
Ah, irrespectueuse. Hein.
Ah voilà, mais voilà. Oh là là là, j'ai
Ten Hag.
Amoli Ten Hag.
Voilà, de l'Ajax.
Ah ben ça, c'est le rêve de tous les supporters du Bayern.
Mais oui, c'est tout à l'heure.
Eric Ten Hag qui a entraîné l'équipe B.
Je suis fatigué. C'est le cerveau qui marche plus.
Eric Ten Hag qui a été entraîneur du Bayern.
J'arrête pas de penser à ça. Mais c'est qui? Mais oui, mais c'est Ten Hag qui prend là, bien sûr.
Mais moi je suis pas en train de dire.
Là, Nico, là.
Attention, je suis pas en train de dire qu'on peut pas remplacer un entraîneur au bout d'un an. Après tout, ils ont la légitimité pour le faire s'ils veulent remplacer Kovac parce qu'ils estiment qu'il a pas le niveau pour la saison prochaine.
Ils vont pas taper,
okay. Ce que je critique
c'est
moi, ce que je critique moi aujourd'hui, c'est que c'est pas le moment de fragiliser un entraîneur qui doit jouer 2 matchs décisifs, championnat.
Mais arrêtez avec les fragilises machin, il est professionnel, il a un contrat, il dirige l'équipe et il gagne s'il doit gagner.
Ah mais lui, Daniel. Daniel Kovac.
On va le prolonger pour qu'il soit dans le contrat.
On va pas le prolonger
parce que sinon on va te prolonger.
Tu seras pas peut-être pas reconduit l'année prochaine. Tu vas voir comment tu vas faire les afters de la fin de l'année.
J'ai pas dit qu'il fallait prolonger.
C'est bon de travailler.
J'ai dit qu'on peut attendre.
Imagine Daniel,
il est professionnel.
Il y a 5 secondes, il était mort de rien.
Daniel, on peut.
T'es un grand malade, toi.
Daniel,
on peut tout ce qu'ils ont, mon pote.
On peut juste attendre 15 jours pour lancer les hostilités, si tu veux. Juste pas sentir 15 jours pour lancer les hostilités. C'est pas le bon moment.
Ah oui, donc Ten Hag, ils vont
sur le fond, c'est sans doute ce qui risque de se passer. Aujourd'hui, même s'il gagne les deux titres, Kovac, le plus probable, c'est qu'il soit remplacé par un entraîneur plus fort, avec plus de renom,
parce que le remplacer par un mec moins fort,
c'est toi qui m'as embrouillé avec Allegri aussi.
Ça
m'a embrouillé, c'est là que j'ai eu mon trou de mémoire.
C'est ma faute.
Mais Allegri, ils veulent du jeu, ils vont pas s'ennuyer avec Allegri.
Absolument. C'est le reproche principal qui est fait à Kovac, c'est qu'il fait pas
assez de jeu. Du coup, je suis pas nul sur l'avenir de Kovac.
Ouais, suspense sur l'avenir de Kovac, parce que même s'il remporte le doublé,
Et aucun entraîneur par ailleurs au Bayern dans l'histoire n'a été viré après un doublé. Coupe championnat, ça n'est jamais arrivé. Mais même s'il remporte le doublé, c'était mon info du soir, même s'il remporte le doublé, il n'a absolument aucune certitude sur son avenir au Bayern la saison prochaine.
Je te dis qu'il ne se rend pas passé l'opportunité de prendre Ten Hag.
C'est un scénario tout à fait possible.
Très bien. Autre chose,
oui, c'est des opportunités aussi.
Je voulais évoquer aussi Dortmund souvent, quand même, parce que c'est.
Vas-y, un mot sur Dortmund.
C'est quand même le club qui peut aussi par le backdoor, par la petite porte, arriver champion le week-end
c'est
prochain.
C'est vraiment la porte de derrière. Là.
Faut qu'il gagne et que le Bayern perde.
C'est un bon kiff quand même.
Simplement à Dortmund, on a reconnu que cette saison, on ne pouvait pas être champion parce que on avait une défense trop poreuse. 44 buts encaissés par Dortmund cette saison et le directeur sportif Zorc a reconnu que quand on avait une défense comme ça, on pouvait pas prétendre à la première place. On pourrait citer tous les joueurs qui sont passés en défense à Dortmund cette saison. Je crois qu'il y a 14 ou 15 défenses différentes qui ont été alignées par Lucien Favre cette saison. Ça fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de blessures. Défense très jeune, un Schmelzer, un Piszczek qui n'ont pas eu beaucoup la place aussi en défense. Ça a été le principal échec pour Dortmund cette saison aussi, je le rappelle, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. C'est peut-être pour ça que Dortmund ne sera pas champion cette saison. En tout cas, c'est le point noir de Dortmund 2018-2019.
Ils ont dû marquer pas mal de buts quand même pour être là avec la...
Oui, plus de 70. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup, mon David, les gars. On passe à l'Italie. Je vous donne juste les résultats de la soirée. 36e journée de Serie A. Bologne qui a battu Parme 4-1. L'Inter Milan qui a battu le Chievo au dernier 2-0. Jingle, Simone Rovera.
Les extances, parce qu'ils tombent vraiment comme une poire. C'est rien d'étrange, hein. T'as jamais vu une poire tomber.
T'as jamais vu quoi? Une poire
tomber. Ouais. T'as jamais vu une poire tomber. On a déjà parlé.
De l'arbre?
Ouais.
Bah, du poirier, quoi. Bah, je t'avoue que je reste pas devant les poiriers à attendre qu'une poire tombe, quoi.
Parce que t'es pas grandi dans une maison avec
dans un environnement bucolique.
Ah, avec plusieurs. Tu joues dans les jardins, une poire tombe.
Ça peut être une pomme, un abricot, enfin tout.
Voilà, mais moi j'avais des poires à la maison, donc.
D'accord, ok.
Alors Simone, l'Inter a gagné ce soir. L'Inter est troisième de Serie A. L'Inter jouera la Ligue des Champions la saison prochaine.
Ouais, presque.
Voilà, ils ont 4 points d'avance sur le 5e. Presque, voilà, il reste 2 journées à jouer. Mais toi, tu dis, faut que Spalletti quitte l'Inter.
Attends, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé au match de l'Inter, là? Il y a eu un arrêt de jeu de...
Ouais, il n'y avait pas 13 minutes d'arrêt de jeu en première période, là?
Ouais.
Il y a eu 5, non, ils ont commencé un peu tard, mais c'est pas eu 13
minutes. Ah, c'était
minutes.
Pour ça, non, ils ont pas démarré plus tard.
Ah, d'accord, ah, ouais, ok.
Mais c'est toujours comme ça. Hier, Roma, Juve a commencé avec 7 minutes de retard sur...
Ouais, normal, quoi.
D'accord.
Normal. Tu sais, à l'Italie.
Ouais, c'est latin, quoi.
Ouais,
c'est...
voilà.
On commence quand on est prêt, quoi.
Moi, à un certain moment, je me suis dit, à moitié de la première mi-temps, pourquoi elle ne vire pas en ces moments? Parce que Spalletti est en train vraiment de définir mal ses saisons à l'Inter. Il aurait encore 2 ans de contrat. Ça coûtera très cher pour l'Inter à les virer. On parle de 28 millions d'euros pour ce que doit payer le club pour le faire partir.
Quand même.
Les problèmes, c'est que Spalletti a créé quelque chose, il a apporté des résultats de qualification consécutive en Ligue des Champions, mais au-delà de ça, il n'a rien créé à l'Inter. Les jeux, c'est toujours de pire en pire. Il a créé un climat négatif dans les vestiaires. Il a été une des protagonistes de l'affaire Icardi. Icardi a tous ses défauts, tous ses erreurs qu'il a fait, des communications. Lui était très dur de l'autre côté en disant tout le temps, je l'ai fait ça pour le bien de l'Inter. En vrai, il l'a fait pour son bien. C'est une situation qu'on avait déjà vue à la Roma avec Totti. Tu peux être esclave du résultat ou tu peux être celui qui pense que au résultat si tu arrives à créer quelque chose derrière, une solidité du groupe, essayer de faire franchir un cap. L'Inter quand même était déjà en Ligue des Champions la saison dernière. On pouvait accepter de voir l'Inter jouer encore mal s'il y avait quelque chose derrière qui arrivait. Comme j'ai dit, des joueurs nouveaux qui se révèlent. Par contre, cette année, il n'y a aucun joueur qui se révèle au plus. Même Lautaro Martinez, qui à un certain moment, on disait, il est en train de prendre la place titulaire. Dès que revient Icardi, il finit sur les bancs et c'est Icardi titulaire. Comme ce soir, catastrophique Icardi face à la dernière du championnat italien, déjà relégué. Donc, l'Inter qui a vécu avec peur ces matchs face au Chievo, qui a joué mal, qui a eu des occasions, mais sont plus des occasions trouvées que créées, qui fait toujours le même type de jeu avec des ballons sur les côtés et des centres pour Icardi ou pour Lautaro. Moi, je trouve que Spalletti, vraiment, la saison dernière, c'était acceptable, c'est ce qu'il a fait. Cette année, non. Et si l'Inter doit payer 50 millions d'euros entre ce que paye pour virer Spalletti et l'argent qu'il faut pour prendre Conte, qui est l'info de cette semaine, il y a un accord total entre Inter et Conte, et sauf retournement de situation, c'est-à-dire sauf offre importante de la Juve pour reprendre Conte, Conte sera l'entraîneur de l'Inter. C'est bien, pas seulement parce qu'il prend Conte, c'est parce qu'ils font partir Spalletti, qui a fait ce qu'il devait faire.
Mais donc s'il part, c'est Conte.
S'il part, c'est Conte. Si non, si Conte arrive, il part. Mais moi, j'ai dit que même si Conte, mon avis tranché, c'est que même si Conte n'arrive pas, Spalletti doit partir.
Mais si Spalletti venait à partir, c'est Conte qui le remplacerait.
Non. D'accord. C'est si Conte arrive.
On l'a fait encore une fois, vas-y.
C'est pas sûr et certain. Aujourd'hui, il y a un accord avec Conte sur les plans du contrat, 3 ans. On part aussi d'une option pour un quatrième et sur les salaires, 9 millions par an. L'accord des Marotta, qui était celui qui avait pris Conte à la Juve, donc on part d'un refaire ces duos qui avaient fait grande la Juve à l'époque. Mais je t'ai dit, au-delà des Conte, aujourd'hui on peut plus voir l'Inter jouer comme ça avec Spalletti, qui a détruit pour moi même certaines bonnes individualités, comme Perisic, comme Icardi, qui est coupable, mais Spalletti a mis du sien.
Ça veut dire que Conte relancerait un peu tout ça, quoi.
Je pense que tu
il
devrais aujourd'hui changer.
C'est une nouvelle page.
Conte, c'est l'entraîneur avec qui t'as pas besoin de changer toute l'équipe, parce que c'est quelqu'un qui t'apporte des motivations, t'apporte aussi des changements.
Il va les mettre au tourbain, là.
Ouais, enfin, il voudra des joueurs, peut-être aussi, lui.
Il veut des joueurs.
À l'Inter.
Pas énormément. Il y a de la matière, ouais.
Il y a de la matière. N'oublie pas que c'est quand même une équipe qui est en phase de poule. Ne va pas en huitième de finale, mais.
Ouais, c'est vraiment le fameux accident.
Et je te signale que c'est Tottenham qui est en finale de la Ligue des Champions.
Putain, que ça se joue à la dernière seconde.
C'est complètement fou. Ouais. Que l'Inter ne soit pas allé en huitième à la place de Tottenham. C'est vraiment dans les délires de cette année de Ligue des Champions, ça se souvient. Ouais, on oublie très souvent de citer.
Hein. Je suis pas sûr que l'Inter serait arrivé en finale.
Je dis pas ça, mais.
Mais quand même à la 80...
Dans les choses un peu folles de cette Ligue des Champions, il y a eu ça aussi.
À la 86e, l'Inter était qualifié à un 8e des finales.
Simonet, un mot également. Alors, je pense que on va peut-être même en faire un sujet, un de ces quatre, sur les maillots de foot. Alors, vous avez vu les images circuler sur celui du Barça, ça fait déjà des mois qu'on voit le maillot Adami à venir pour le FC Barcelone la saison prochaine. Il y a un nouveau maillot de la Juve. Et alors là, c'est assez conceptuel. Alors, il y avait le logo qui avait été refait. Alors, l'écusson qui est devenu un vrai logo. Et là, maintenant, en gros, t'as un côté noir. Il est coupé en deux. Un côté noir, un côté blanc. Et une bande rose au milieu. Alors, la bande rose, elle a une histoire parce que c'est le maillot originaire. Ouais. Originel. Ce sont les couleurs originales de la Juve.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ce maillot coupé en deux, comme ça, ça fait,
Il a plus
ça fait jaser ou pas?
Il a plus les rayures. C'est un énorme
rayures,
débat en italien.
C'est de fou, les rayures.
C'est un énorme débat sur le
sport. Fait ça une année, ça a duré un an. Les mecs,
moi, j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour un an. Il y a cette message marketing des communications de la Juve, de Adidas, qui dit Be the stripes. Soyez vus les rayures. Si on voit les maillots un à côté de l'autre, ça dit, voyez, si tu mets tout à côté.
Oui, enfin, ça va. Avec avec un slogan, on fait tout passer.
Voilà. Moi, j'ai l'impression.
C'est comme un suppositoire.
Et je suis convaincu de ça.
Champions Project.
Un slogan pour le suppositoire.
La Juve.
Non, je dis ça peut.
La Juve est sûr et certain que la prochaine saison, Cristiano Ronaldo est encore là. Tu fais un maillot qui est totalement différent de celui de l'année dernière. Tu peux vendre à nouveau plus d'un million de maillots comme cette année. Donc c'est vraiment quelque chose de marketing. C'est un maillot qui peut-être.
Merde, on n'avait pas compris que c'était marketing, Simonet.
il n'y a pas une chose qu'on peut dire sur les passés ou sur à part les bandes roses. L'Inter a lancé un maillot cette année.
C'est bien qu'Adidas ait convaincu la Juve et qui pendant des années avait été réfractaire à tout changement que les équipementiers proposent toujours parce que le but c'est le business. La Juve faisait partie des clubs qui étaient le plus réfractaire par rapport à sa tradition. Tout le club modifie 2-3 trucs pour pouvoir justement.
Il y a la vision totale.
Les cuissons avaient déjà bougé, mais là. Même si ça a été
un peu comme dans les reportages qu'on a montré sur Transversal la semaine dernière, la vision d'André Agnelli, l'ouverture à l'avenir, l'effet qu'aujourd'hui la Juve commercialise même des maillots de basket, était une des premières clubs à faire ça, c'est vraiment une nouvelle vision de la Juve et le débat est ouvert. Plusieurs supporters de la Juve n'aiment pas ça, mais comme je suis convaincu que ça va être vendu à plus d'un million d'exemplaires comme cette année, parce que derrière, t'as Cristiano qui t'aide beaucoup à vendre, même un million.
Regarde, dans le même temps, le PSG va revenir un maillot traditionnel.
Alors, c'est quoi, j'allais venir, mais je sais pas si tu y étais encore, l'année où ils ont enlevé la petite bande blanche sur le maillot du PSG, ça avait fait scandale, souvenez-vous, parce que ce sont les couleurs de Saint-Germain-en-Laye.
Tous les ans, partout, t'as ce genre d'histoire-là.
Là, ça devient dingue, là. Celui du Barça, Fredo.
Il a frappé.
Ah oui, avec les Damiers. Ah, oui,
ah non, mais
oui,
c'est un truc de ouf. Mais c'est un
avec
truc
le
de
Damier, là.
Quoi, ils vont recruter Modric.
Oh, pas mal. Non, non, mais c'est terrible. Mais déjà, cette année, le Barça avec leur maillot fluo, là, c'était pourri, quoi.
Oh, mais c'est l'extérieur encore, tu vois.
Ouais, mais même,
c'est non, mais le domicile, Barça, c'est le symbolique.
Le Barça, ils avaient fait des modifs du maillot en séparant les couleurs.
Oui, c'est
en
pourquoi
deux et tout. Ils
parce que le maillot original, il est coupé en deux aussi. C'était pour le centenaire, notamment, que vous avez
fait. Pour le centenaire, il est
toujours
le maillot du Barça, c'est le maillot du centenaire.
Le moyen à la
avec le logo au milieu.
Ouais. Tu trouves
avec
toujours.
Le logo,
en fait.
Ouais, avec ouais. Le logo sur la poitrine au milieu.
Époque
il était très beau, ce Barça-là.
Époque Fred Dehu.
L'époque Fred Dehu, oui, tout à fait.
Ouais, effectivement.
Mais c'est vrai qu'il était très beau, ce maillot-là. Mais finalement, vous savez, les supporters, ils finissent par acheter. C'est ça, le truc. Donc, il y a des historiques qui râlent, mais finalement, au niveau des ventes, ça marche.
Ah, bah, le maillot jaune du PSG, c'est extrêmement bien vendu. Je me souviens d'un orange à Marseille.
Moi, mon époque, le maillot gris qui arrive à un moment.
Le maillot orange, il était pas mal. Il y avait une petite dédicace aux supporters, notamment.
Ouais, mais je te dis, tu fais toujours tout passer.
Ouais, mais t'as...
Avec
ouais,
un slogan, une histoire marketing, c'est un lubrifiant.
Tout dépend des résultats.
Et dis donc, Atalanta, ils vont aller en Ligue des Champions, quoi, là.
Ça a l'air d'être quasi fait, là, non?
Bah.
Il y a le match contre la Juve
voilà.
À jouer.
Après, ça ouvre un peu l'autre débat sur les matchs de fin de saison de la Juve, qui a fait match nul face au Torino, face à l'Inter, en jouant quand même très mal, qu'il a perdu face à la Roma, donc zéro victoire après qu'ils ont été sacrés champions. Ils sont en vacances. Aujourd'hui, il y avait même la Stampa, qui est un quotidien italien, qui faisait le titre Vacances Romane pour le match de la Juve de hier soir. Et l'Atalanta va jouer samedi face à la Juve, qui fera la fête pour les titres juste après. Déjà, il y a un débat parce que Milan.
Même s'ils perdent ce match-là, ça reste possible pour l'Atalanta sur la dernière journée après de reprendre la quatrième place, non?
Ben non, parce que quand même à égalité avec Milan, confrontation directe, Milan a battu l'Atalanta, donc tu risques de...
Mais est-ce que Milan va gagner ce week-end?
Milan joue face à domicile face à Frosinone qui est déjà relégué, ouais, sinon, et après la dernière c'est face à la Spal qui est déjà maintenue, donc...
Milan peut faire les 6 points, quoi.
Oui, et l'Atalanta doit en faire 4.
Ouais, ça va être dur quand même.
Est-ce que va en faire un point à la Juve? Pour l'instant, la Juve a fait des cadeaux à tout le monde. Parce que, comme j'ai dit, il a joué mal face à Torino et face à l'Inter. Après, Torino et Inter n'ont pas eu la mentalité, la force pour gagner. Mais la Juve a joué vraiment très mal ces deux matchs.
Ah, l'Atalanta peut faire un gros match.
Pire, hein,
ils ont bien joué, ils jouent bien en ce moment. Ils peuvent
sauf, il y a un petit souci, mercredi, finale des Coupes d'Italie, Atalanta-Lazio. Donc, les deux matchs à un jeu arrivent en 3 jours, ça va être pas simple. Ouais. Mais c'est vrai que l'Atalanta joue cette semaine, toute son histoire, parce qu'il a gagné un seul trophée dans les années 60, qui est un coup d'Italie, et il n'a jamais joué à la Ligue des Champions. Donc, en 3 jours, on peut dire l'Atalanta joue vraiment toute son histoire, tout son avenir, et même Gasperini, qui est recherché par Milan et la Roma, joue son avenir, parce que si il fait arriver l'Atalanta à la Ligue des Champions.
Bah, comment ça, à la Roma, c'est pas Laurent Blanc?
Laurent Blanc a été proposé. Et à la Roma. Bah et la Roma, aujourd'hui, a
oui,
deux
non
pistes.
Non. Ah, merde.
Il préfère Gasperini. Oh, bah, et attention, il y a une autre piste très chaude pour la Roma. C'est Rafa Benitez.
Ah ouais?
Ouais.
Il se jette Rafa pas Benitez sur l'opportunité, Laurent Blanc. C'est quand même étonnant.
Ils sont en train de réfléchir à l'opportunité, Laurent Blanc. Aujourd'hui, c'est pas les premières de la liste. C'est peut-être les troisièmes, quatrièmes.
Ah ouais.
Mais c'est dans la liste.
Merci Simone.
Juste nous dit dans le jingle, c'est Laurent Blanc qui nous dit que la première possibilité n'est pas forcément la dernière.
Ouais, c'est vrai.
Donc finalement, ça va peut-être être la bonne.
Voilà,
là,
peut-être priorités. Tu peux expliquer ça.
Ouais, la première des priorités n'est
Simone
pas forcément la meilleure des
donc,
priorités.
Donc l'Orto, thank you. Ciao, Julien.
Donc
schön.
Donc faut pas.
Et tu sais pas dire il y a 10 minutes encore, tu savais pas dire suspense en allemand. Alors,
il y en a qui savaient pas les
mots en
français.
Arthur Schwungen.
Vous devrez faire un selfie
vous deux collés est très ambigu quand même.
Allez, il se tape un selfie. Merci beaucoup Arthur Robert.
Si ambigu qu'un doigt dans
le. Merci Quentin Barbeur à la prod avec Paul Vecchio également. Merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer cette émission. On vous dit à demain à partir de 22h. Et tiens, avec demain, on vous le rappelle, un Bruce Granet qui sera avec nous, champion du monde FIFA et PES.
Ouais,
ça parle console, ça parle sport.
Si j'ai pas
la branlée qu'il a mise.
Hein?
Ok. Enfin, un e-pop spécial pour lui.
J'y crois pas, ça, moi.
Ah bah écoute, réponds demain. On demandera à vous. À demain, bisous. Ciao, ciao.
RMC, l'After Foot.